Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau, Cube Radio.
Alors, on connaît tous la chanson « Il est où le bonheur, il est où? » Ben là, on pourrait chanter « Il est où le plan? Il est où le plan? » C'est ce que demandait Jean Baillargeon, qui est expert conseil en communication stratégique ce week-end dans la section « Faites la différence » du Journal de Montréal. Il écrivait « Il est où le plan de sortie de la pandémie, s'il vous plaît? » On veut pas quelque chose d'improvisé, là. On veut que ce soit un plan. Bonjour, Monsieur Baillargeon.
Bonjour.
Le problème, par contre, le problème que je vois, c'est que là, prévoir l'imprévisible, c'est difficile parce que le virus est par nature très imprévisible. Donc, comment on peut arriver avec un plan qui prévoit on va faire ci, on va faire ça, alors qu'on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez?
Bien, au départ, il faut sortir des ornières bureaucratiques et corporatives du ministère de la Santé. Parce qu'actuellement, il y a beaucoup de ressources mal utilisées, non utilisés, et à cause du système de santé, on le sait que maintenant que on a le nombre de lits par million par habitant le plus faible au Canada et même en Occident, et le plus haut taux de mortalité par capita. Donc, il y a un problème de gestion des ressources.
Et là, vous dites plan permanent de sortie. On pourrait... D'ailleurs, il y a beaucoup de gens, là, vous le dites, là, 2,5 lits par million d'habitants, c'est très peu. C'est un des taux les plus faibles en Occident. Est-ce qu'il y a des gens qui demandent pour des états généraux du système de santé? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, ben c'est ça. Moi, je propose un forum national, OK, dans le sens que beaucoup de gens que je connais, qui travaillent dans le milieu de la santé, qui travaillent même dans la santé publique, et d'ailleurs, moi-même, j'ai été inspecteur vigie durant la première vague de la pandémie, donc je connais un peu comment ça fonctionne. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut mobiliser les meilleures idées, les meilleures ressources. Donc, je propose un forum national qui va faire en sorte de mettre en commun les bonnes idées, la façon de s'organiser, la façon de mobiliser les ressources en situation d'urgence, notamment, par exemple, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas davantage les retraités, les étudiants? C'est des ressources disponibles qui ont moins de contraintes que d'autres et ils pourraient, eux, aider à la fois le système d'éducation, à la fois le système de santé pour l'alléger. Et là, actuellement, on est toujours dans les mêmes ornières, vous voyez. Alors, on a des conventions collectives rigides. On nous dit, justement, écoutez, on ne peut pas imposer la vaccination obligatoire parce que ça va contre le Code du travail. Par ailleurs, la loi de la santé publique nous permet la vaccination, d'imposer la vaccination obligatoire, puis on peut pas le faire à cause des lois des conventions collectives. Ça fonctionne pas, là. Alors, donc, à un moment donné, il faut faire du ménage là-dedans. Qu'est-ce qui est prioritaire? La santé de la population ou les conventions collectives?
Ben c'est ça, là, parce que là, on se retrouve, tu sais, quand vous parlez de bureaucratie, oui, il y a une bureaucratie épouvantable au gouvernement, mais il y a les corporations professionnelles, il y a les syndicats aussi. Les syndicats, ils pensent à leurs membres, ils pensent pas au bien-être de la société. Et là, si on fait des états généraux, il va falloir dire à ces gens-là, ben on met tout sur la table, là, parce que la façon dont vous gérez vos affaires aussi, ça n'a pas de sens. Dans une situation de pandémie, faut pas penser rien qu'à nos membres, faut penser à la population en général.
Ben, on le sait, d'ailleurs, le premier ministre a dit... Je ne peux pas imposer les travailleurs de la SAQ à se faire vacciner. Par contre, tout le monde pour rentrer dans la SAQ devra être vacciné. Cherchez l'erreur.
Ben oui.
Donc, ça n'a aucun sens. Alors, à partir de ce moment-là, il faut que ceux qui ne sont pas vaccinés soient mis dans des entrepôts, pas de contact avec le public. Moi, je suis pour la vaccination obligatoire des fonctionnaires ou toute personne qui travaille pour l'État. Qui est en contact avec le public doit être vacciné. Les autres, ben écoutez, ils resteront chez eux, travailleront chez eux ou dans les entrepôts. Puis on peut pas l'imposer à cause des conventions collectives, mais au moins qu'on applique, si on applique un plan d'urgence de gestion sanitaire, ben qu'on l'applique pas plein de trous là. Ok, il faut être conséquent avec ce qu'on prône, parce que là actuellement les gens ne croient plus que les mesures sanitaires actuelles sont efficaces. Ils ont trois vaccins, qui sont encore confinés.
Ben moi, il y a plein de gens qui m'écrivent. Ils disent, on me dit là, que il faut se faire vacciner. J'ai 3 vaccins, puis pourtant, je peux rien faire exactement comme mon voisin qui est pas vacciné. Comment c'est, alors, on nous a promis une porte de sortie qui, finalement, elle s'est jamais ouverte.
Exactement. Donc, on doit renforcer le passeport vaccinal pour l'accès à tous les lieux publics, que ce soit spectacle, lieux de sport, cinéma, restaurant. On le voit là pour les grandes surfaces. Moi, je l'imposerais pour rentrer dans les centres d'achat, tant qu'à moi, mais parce que c'est une grande surface, tant qu'à moi. Donc, à partir de ce moment-là, les gens qui ne veulent pas se faire vacciner, ben, ils sont responsables. Ils savent qu'il y a des conséquences. À partir de ce moment-là, ben, ils assumeront leur choix. Mais aussi, il faut augmenter le nombre de lits, il faut augmenter les ressources. Pourquoi est-ce qu'on refuse à des immigrants qui ont une formation en Europe, que ce soit au niveau des infirmières ou des médecins, de pratiquer au Québec? Pourquoi? À cause de l'ordre des médecins, est-ce que c'est quoi le problème? Alors, donc, il faut absolument enlever l'aspect corporatif au service de santé. Même chose pour les enseignants. Écoutez, il y a plein de gens qui pourraient enseigner à temps partiel, soit des retraités, soit des étudiants qui sont en formation. Même chose pour les étudiants en médecine qui sont en formation, en sciences infirmières. Ils peuvent faire des stages pratiques. Moi, là, quand j'étais leader étudiant, j'avais proposé la création d'un centre étudiant de service communautaire qui avait été financé pendant 2 ans par le ministre Camille Laurent, à l'époque ministre de l'Éducation, où on reconnaissait les crédits à la participation étudiante et les stages dans la communauté. Cessons de travailler en silo. On dirait que tout le monde travaille en silo, personne ne travaille ensemble. Mmh. Donc, le Forum national, ça avait pour but de réunir tout le monde qui est volontaire, qui est prêt à faire un effort.
Et donc d'avoir une vision globale et surtout ce que vous dites, il faut pas que... Parce que là, actuellement, on a toujours l'impression, c'est pour ça d'ailleurs, moi je pense que le gouvernement glisse dans les sondages, on a toujours l'impression que tout ça est improvisé, là. Que leurs mesures sont improvisées. Il va falloir avoir des mesures claires, cohérentes, puis globales.
Mais c'est comme quand il y a des inondations, là, vous savez, il y a la sécurité civile maintenant qu'il y a des plans d'urgence, hein. La Croix-Rouge est mobilisée, des fois l'armée, la police, etc. Bon, peu importe, là, OK? Les municipalités, ils ont tous des plans d'urgence. Mais pourquoi on n'a pas un plan d'urgence sanitaire à grandeur du Québec? Et on saura, parce que la pandémie, là, on le sait, là, c'est pas fini là, avec Omicron, là. Il va y avoir d'autres virus, d'autres variants, etc., parce qu'on n'est pas, il n'y a pas déjà assez de personnes vaccinées dans le monde. Donc, à partir de ce moment-là, il faut cesser de penser confinement des citoyens, mais plutôt essayer d'avoir les ressources pour affronter, utiliser au maximum nos ressources pour affronter les pandémies. Puis on dirait que le système de santé, vous le savez, c'est comme un entonnoir à l'envers. C'est difficile de rentrer, mais un coup rentré, on est bien soigné.
Oui.
Donc à partir de ce moment-là, il faut raisonner à l'endroit et plutôt mobiliser nos ressources, parce que c'est pas normal qu'on soit les derniers en Occident au niveau du nombre de lits et au niveau du taux de mortalité.
Et c'est important d'avoir un plan, des États généraux en santé, d'un plan, parce qu'il va en avoir d'autres épidémies puis d'autres pandémies. Tous les experts le disent. C'était une question de temps, celle-là. Et peut-être que la prochaine même va faire passer l'actuelle pandémie pour de la petite bière. Donc, il faut vraiment se préparer. Votre texte, où est le plan permanent de sortie de la pandémie? On peut le trouver sur le site Internet Journal de Montréal. Merci beaucoup, M. Jean Baillargeon.
Merci.
Alors, merci à l'excellente équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux, merci beaucoup. Maude Boutet, Luc Fortin à la recherche. Merci à vous trois. Jean-François Roy à la régie, à la réalisation. Merci de ton excellent travail. Et Benoît arrive. Et là, vous savez que notre rencontre, Benoît et moi, c'était à midi. Hein. Midi, on se rencontrait, puis on jasait, puis tout ça. Là, ce ne sera plus à midi. À partir d'aujourd'hui, ça va être à 11 heures. Ce qui me permettra de faire ça en personne. Oui, et pas de chez moi avec un micro, mais en personne avec Benoît. Donc, à partir d'11 heures aujourd'hui, merci beaucoup. Portez-vous bien. Passez une excellente journée.